Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Je vous propose de rencontrer Céline Paravi-Atlan, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est une femme aux valeurs fortes qui soutient beaucoup le développement aussi bien personnel que professionnel de toutes les personnes qui l'entourent. Vous allez le voir, que ce soit son parcours professionnel, sa création entrepreneuriale ou bien ses aspirations, cette conversation que j'ai pu avoir avec elle m'a beaucoup inspirée. J'espère qu'il en sera de même pour vous, ce dont je ne doute pas. Aussi, je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Céline!
Bonjour Mathilde.
Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Esprit Hospitality. Vous êtes la fondatrice de Ma Pièce à Lyon, qui est une société qui est le premier concept de maison d'hôte pour les entreprises. Vous êtes aussi l'une des membres de la CCI de Lyon, donc vous nous en direz un petit peu plus sur ça aussi plus tard. J'aimerais tout d'abord savoir quel a été votre parcours. Je sais que vous avez commencé dans la communication et puis évolué dans ce milieu-là. Alors, comment en êtes-vous venue à diriger et entreprendre dans le milieu dans lequel vous êtes maintenant ?
Alors, en fait, il faut juste partir un tout petit peu avant du démarrage de la carrière professionnelle, puisque moi, j'ai été une des premières étudiantes de l'Institut Vatel à faire un bachelor, qui à l'époque, ça s'appelait un diplôme européen de gestion hôtelière. Donc, on a fait pendant plusieurs années des études autour de l'hôtellerie et de la restauration. Et moi, je me suis très vite spécialisée sur la partie marketing, communication du tourisme et de l'hôtellerie. Et j'ai eu la chance de faire le stage de dernière année de l'Institut Vatel dans le groupe Lucien Barrière, où j'étais donc au service communication externe et je m'occupais de la communication des casinos et des hôtels du groupe Barrière sur Deauville et Trouville. Et de cette expérience-là, c'est là qu'est née vraiment une vraie appétence pour la communication et pour la communication vraiment autour de l'hôtellerie et de ses services et de ce qu'elle pouvait proposer. Donc à l'époque, évidemment, j'étais toute jeune, hein, j'avais moins de 25 ans. J'avais une proposition d'embauche sur ce poste-là, mais que j'avais décliné parce que je me sentais pas de vivre sur Deauville. Et c'est rigolo parce que du coup, je suis née à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. Et dans le cadre de ce dernier stage, une fois que j'ai commencé un peu à poster, donc à l'époque, on n'avait pas Internet hein, comme aujourd'hui, donc je prenais mon téléphone et j'appelais toutes les chaînes hôtelières pour savoir si elles avaient des besoins ou des recherches d'emploi sur des profils de chargé de communication. Et puis, de fil en aiguille, j'avais trouvé un poste dans une agence de communication dont le siège était basé à Limonest, donc à côté de Lyon, et qui avait une filiale à Paris. Et cette agence était une des premières agences à avoir créé les cartes cadeaux, comme on trouve aujourd'hui toutes les petites cartes dans lesquelles on a des promotions d'hôtels, de voyages, etc. Et ils avaient besoin à l'époque d'une personne qui avait une bonne vision, une bonne connaissance du marché de l'hôtellerie et du tourisme en France. Et donc, du coup, j'ai signé mon CDI. J'avais pas encore terminé mon stage. Et je me suis retrouvée donc à Lyon, alors que j'avais cherché un boulot un peu dans la France entière, puisque j'avais postulé évidemment Relais et Châteaux, le groupe Accor. Et je me suis retrouvée sur Lyon, mais entre le moment où j'avais donc eu ce poste et le moment où j'ai terminé mon stage et j'ai démarré donc cette mission, il s'est déroulé, je me souviens plus exactement, mais peut-être 3 mois. Et puis en fait, quand je suis arrivée sur cette prise de fonction, l'agence me dit « bah finalement, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule ». On aura peut-être moins de besoins sur la partie hôtellerie tourisme, mais par contre votre profil nous intéresse vraiment, donc on vous garde. Donc je me suis mis en fait très rapidement à faire de la communication plus généraliste, à faire du marketing plus généraliste et beaucoup moins spécialisé sur l'hôtellerie ou le tourisme. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu expliquer comment je suis arrivée à la com. Je suis restée à peu près un peu moins de 2 ans sur ce poste-là. J'ai été débauchée, donc j'ai ensuite pris un poste qui a été passionnant dans le groupe Publicis à Lyon, qui avait une filiale qui s'occupait de la communication corporate comme interne, qui s'appelait à l'époque Deuxième Communication, qui était dirigée par une femme exceptionnelle dont je suis toujours très proche aujourd'hui, et qui m'a vraiment amenée je dirais, non seulement sur mon métier de communicant, mais aussi sur un état d'esprit entrepreneurial, puisque Jacqueline avait vraiment un esprit très, très ouvert sur comment fonctionne une société, c'est quoi une marge brute, une marge nette, etc. Elle nous impliquait énormément.
Sur les bases de la gestion aussi d'une entreprise.
Exactement. Et donc, du coup, tout ça a fait qu'on était assez responsable, entre guillemets, de ce qu'on pouvait produire en tant que personne dans cette agence-là, mais aussi tout ce qu'on pouvait apporter à l'entreprise en tant qu'individu. Donc voilà, donc on a eu cette chance de croiser cette femme. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le petit groupe qu'on était à l'époque, on est tous restés vraiment en contact. Et je crois bien que 80% des salariés de l'époque, on a tous créé notre société bien plus tard. Donc, c'est marrant, c'est des petits clins d'œil de la vie. Donc, moi, je suis restée plusieurs années dans cette agence où j'ai beaucoup appris, vous l'avez compris, à la fois techniquement, professionnellement, mais aussi personnellement, puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai eu aussi mes enfants. Et puis la vie faisant, un jour j'ai eu envie de faire d'autres choses et donc j'ai débarqué, je suis passée de l'autre côté, me suis retrouvée chez l'annonceur et j'ai ensuite démarré ma carrière, je dirais la suite de ma carrière avant d'être entrepreneur dans le groupe April, où là j'avais pris la responsabilité et la direction de la communication interne, donc au départ d'une des filiales d'April et puis ensuite du groupe April où j'ai géré ses filiales et ses plus de 4000 collaborateurs dans le cadre de la communication interne. Voilà.
Dans tous les métiers de la communication et de la publicité, qu'est-ce qui vous intéressait, bien que ça soit au début dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et puis ensuite voilà, chez Publicis et chez April, qu'est-ce qui vous a toujours intéressé dans ces métiers-là ?
En fait, moi, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien et le contact et c'est la relation et j'ai toujours été très intéressée par l'entreprise, l'organisation, hein, l'organisation au sens large et au sens noble, et que du coup, dans cette organisation-là, il y a des métiers, hein, il y a de la finance, il y a des ressources humaines, il y a du marketing, il y a de la technique. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'arriver à mettre tout ça en musique et de le formaliser après par des supports de communication, par des discours, par des plateformes de marque. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'était d'arriver à embarquer les salariés dans le projet d'entreprise, dans la vision de l'entreprise, dans son plan à moyen et long terme. Et c'était d'arriver à donner du sens au projet d'entreprise. Et c'est ce qui m'a toujours beaucoup intéressée et c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est comment arriver à le mettre en musique, comment arriver à faire en sorte que les messages clés soient perceptibles, comment ils sont perçus, comment on les fait vivre. Et donc du coup, bah, au milieu de tout ça, il y a quoi ? Il y a l'être humain, hein, il y a des personnes, la nécessité de les accompagner sur la compréhension du projet tel que l'entreprise, tel que la direction veut le faire en fait. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans ma posture d'entrepreneur.
Bien sûr, et c'est ce que j'allais dire, ça a d'autant plus de sens avec les valeurs que vous partagez, puisque vous nommez un petit peu comme un lieu de vie aussi, avec les tendances actuelles, le fait que ma pièce mette en place des lieux de vie. C'est aussi bien de montrer justement ce lien maintenant entre les personnes et de valoriser ça à travers une bonne communication. J'imagine que c'est quelque chose d'assez central dans votre entreprise.
Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'étais chez April, on a beaucoup travaillé, évidemment, en communication interne sur tous les risques psychosociaux, par exemple, dans l'entreprise. Moi, j'ai assisté vraiment au démarrage de ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui. Voilà, c'était comment faire prendre conscience qu'à un moment, l'entreprise avait un rôle à jouer dans
la vie des salariés.
Exactement, dans la vie des salariés, mais dans la société avec un grand S aussi. Et du coup, c'est aussi par ce biais-là que j'ai eu l'idée de créer ma pièce, mais ça, je vous l'expliquerai peut-être après. Et avec cette volonté, cette nécessité de donner du sens. Moi, j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas demander à des salariés de réfléchir, de se mobiliser sur un sujet s'ils n'en avaient pas le sens profond, s'ils n'en avaient pas l'aboutissement. Moi, par exemple, j'ai besoin de formaliser, de concrétiser les choses. J'arrive pas à me projeter dans des choses abstraites. Il faut absolument à un moment avoir un résultat. Et du coup, être dans la communication et notamment dans la communication interne, et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui avec ma pièce, c'est qu'il faut formaliser, rendre tangible et rendre complètement concret tout ce qu'on crée autour d'une marque, d'un concept, de ses messages clés, de sa vision, voilà, etc. Donc ça, c'est vraiment important.
Et d'autant plus aujourd'hui, je sens que c'est assez clé au niveau des entreprises d'avoir une bonne communication, qu'elle soit interne ou externe, pour vraiment avoir et construire une communauté, si je peux dire ça comme ça, pour capter en fait aussi de la clientèle, mais pour que, comme vous le disiez, les personnes à l'intérieur de l'entreprise se sentent bien et aient envie justement de, elles aussi, communiquer par rapport à leur entreprise et qu'elles se sentent impliquées justement. Enfin, c'est un petit peu les nouveaux styles de management, si je peux dire ça comme ça maintenant.
Oui, complètement, Mathilde. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la fierté d'appartenance. Je crois qu'il est vraiment capital qu'un salarié en dehors de son lieu de travail puisse parler de son entreprise avec fierté. Parce que quand vous allez vous vous lever chaque matin en étant content, en ayant envie, en comprenant ce que vous faites et pourquoi vous le faites, ça change complètement la donne. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on dégage des hormones positives, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte que des projets grandissent, se développent, que des structures aussi se développent. Moi, je pense que c'est vraiment important, le matin quand on se lève, de pas se dire « Waouh, j'ai pas envie ». Et moi, j'ai pu connaître ça quand même. Même si j'ai toujours beaucoup été impliquée, j'ai beaucoup aimé. Moi, les fins d'histoire dans mes précédents jobs, c'était aussi un matin où je me levais, où je me rendais compte que j'avais moins l'envie, j'avais moins le petit truc au fond de moi qui faisait que ça bouillonnait. Et à partir de ce moment-là où j'avais des signes tangibles d'une forme de lassitude, que j'avais besoin de renouveau, que j'avais besoin de nouveaux challenges, bah, à chaque fois, j'ai changé, j'ai fait d'autres choses. Alors, entre ce moment, entre ce constat-là et le moment où on peut partir, parce que c'est pas toujours facile, il y a plein d'étapes, où dans ces étapes-là, c'est là où ce qui est important, et c'est une forme de maturité, d'être capable aussi de se remettre un petit peu en question et se dire, bah, qu'est-ce dont j'ai envie, quoi? Qu'est-ce qui m'épanouit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi plein de gens qui, à un certain moment de leur carrière, se reconvertissent, font d'autres choses, parce qu'ils ont pu déjà identifier leurs envies et leurs besoins, et puis qu'ensuite, ils peuvent le matérialiser, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur, et ce n'est absolument pas un jugement de valeur, bien au contraire. Et d'ailleurs, il faut de tout.
Bien sûr, il faut de tout. Donc, qu'on soit entrepreneur ou bien associé d'entrepreneur ou bien salarié.
Exactement.
Eh bien, on a tous une part et un rôle à jouer.
Exactement. Et c'est l'équilibre, d'ailleurs, de tout ça qui fait la différence. Hein.
Bien sûr. Voilà. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Comment alors votre envie de monter ma pièce est... a été mis en avant justement dans vos précédentes expériences. Comment vous avez eu cette idée et vraiment l'envie de quitter votre précédent job pour lancer ce concept-là?
Alors moi, c'est ça. Alors, dans le cadre de mes missions de communicante en interne, évidemment, j'organisais beaucoup de réunions, de séminaires, de conventions. Et je nourrissais une frustration qui était énorme, où dans mes recherches de lieux, j'arrivais jamais à trouver la juste adéquation entre le bon lieu, le bon contenu, le bon format, la bonne animation, la bonne restauration. Il y avait toujours quelque chose à un moment qui pêchait, qui faisait que c'était toujours un petit peu laborieux. Donc, soit le lieu était super, mais on mangeait pas très bien, soit le lieu était super, mais la salle de réunion était pas à la hauteur de l'hôtel, par exemple, soit c'était la restauration, soit les animations allaient pas. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait que, finalement, ma propre satisfaction, puisque c'était moi qui étais organisatrice et donneuse d'ordre sur ce projet-là, il y avait toujours un moment où je me disais, on peut faire mieux. Et donc, en fait, l'idée de créer des lieux dédiés aux entreprises sur le concept du « comme à la maison » m'est venue de ma propre consommation.
C'est ça. Vous avez identifié un besoin que vous aviez à l'époque dans l'organisation d'événements d'affaires.
Exactement. Ou des fois, je pouvais réserver 2-3 jours dans des très, très beaux hôtels même parfois des hôtels classés 5 étoiles, et les salles de réunion étaient toutes pourries, avec une vilaine moquette, du scotch, un vidéoprojecteur qui marchait pas très bien, donc les couleurs du logo, c'était jamais les bonnes couleurs, des chaises, on n'était pas toujours très bien assis, les pauses avec toujours les mêmes croissants, et généralement, c'est la même pause le matin que l'après-midi, enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, il y a vraiment une réflexion à mener sur cette notion d'hospitalité, de convivialité, de comment recevoir et avec la conviction et la certitude que d'être, de travailler, d'être reçu dans un lieu avec élégance, avec la simplicité, avec des bons produits, avec une bonne assise, des jolis coussins, le sourire, j'étais convaincue qu'au final, on travaillait très certainement 100 fois mieux. Et du coup, ça reboucle à ce que je vous ai dit avant, cette notion aussi de plaisir. Il faut qu'on ait du plaisir à aller travailler. Et j'étais convaincue aussi qu'il fallait avoir du plaisir à se réunir, à travailler ensemble. En fait, l'entreprise, quand elle décide de faire un séminaire à l'extérieur de ses locaux, c'est un vrai investissement financier, c'est du temps. Et moi, je me souviens souvent, quand on faisait des séminaires chez April ou quand j'ai pu en organiser, quand j'étais en agence, il y avait quand même toujours le moment où tu as les salariés qui disent « Oh là là, j'ai pas envie ». J'ai pas envie de me retrouver assise pendant une journée dans une salle à écouter. Gna gna gna. Donc du coup, il y avait déjà une posture très négative du participant qui arrivait en journée de séminaire. Il n'était pas en position d'ouverture, de pensée positive. Et donc du coup, je me suis dit, si on les accueille dans un bel endroit où ils sont bien assis, où ils mangent bien, où ils ont des bons outils pour travailler, à la fin de la journée, la réunion, non seulement elle sera réussie, mais le client, l'objectif de la réunion sera absolument satisfait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand j'ai créé ma pièce en 2012. On a tout de suite eu rencontré notre public, si j'allais dire, parce qu'en fait, quand on a créé, alors je dis « on » parce que j'étais associée à l'époque,
Oui, d'ailleurs, comment trouver les partenaires dans ces cas-là pour monter une telle aventure ? Parce que c'est pas rien de dire je quitte mon précédent job pour monter ce concept qui, à l'époque, n'existait pas forcément. Comment trouver les partenaires avec qui vous vous êtes associé ?
Il y a deux choses. Déjà, il y a l'association. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus associée avec Dominique Damois. Mais je l'aurais jamais fait si je n'avais pas rencontré Dominique Damois. Donc c'est pour ça que je serai toujours reconnaissante. Voilà. Après, l'histoire a fait que l'association n'a pas pu fonctionner sur le long terme. Mais il est évident que être entrepreneur et prendre la décision d'entreprendre, c'est plus facile à deux, parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a du participatif, il y a de la transmission de stress ou de non-stress. Quand il y en a une qui stresse, bah, l'autre ne stresse pas.
Donc, bien sûr, c'est du partage de toutes les émotions qu'on a au quotidien.
Exactement. Donc là, dans le cadre de la création de ma pièce, ce qui s'est en fait tout simplement passé, c'est que Dominique était une personne avec qui j'avais travaillé d'ailleurs quand j'étais chez Publicis, que je voyais de temps en temps. Voilà, on arrivait de temps en temps à se faire un déjeuner, puis ensuite, de fil en aiguille, on parlait un petit peu des projets, des envies, puis je lui dis, bah voilà, moi j'ai un projet en tête, je voudrais créer un lieu, alors à l'époque je savais pas que ça s'appellerait ma pièce, je voudrais créer un lieu pour les entreprises, pour qu'elles puissent faire leur séminaire avec les codes du com à la maison. Et donc c'est comme ça que Dominique, quelques semaines après, m'a appelé en me disant, bah voilà, si tu cherches un associé, moi ton idée je la trouve dingue et ça m'intéresse de partir sur le projet. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et c'est vrai qu'ensuite les partenaires, très vite, j'ai cherché, moi, dans mon entourage, des personnes qui pouvaient nous aider à faire en sorte que le projet se mette sur les rails. Donc, par exemple, la restauration, bah, c'est une copine à moi qui était cuisinière itinérante, à qui j'ai dit, bah voilà, je suis en train de créer un projet, est-ce que ça t'intéresse ? Elle m'a dit, mais avec grand plaisir, j'adore l'idée. Donc, elle est venue avec nous. L'architecte d'intérieur, c'est une amie à moi qui faisait plutôt de l'archi pour le particulier quand je lui ai parlé du projet, qu'il fallait qu'on trouve un lieu, qu'on fasse un espèce de mix entre du pro, du particulier. Elle m'a dit banco, moi je te suis, j'adore l'idée. Ben voilà, très vite, j'ai pu un petit peu capitaliser sur mon réseau, mes amitiés, pour déjà lancer le projet. Et puis surtout, c'est que j'avais un gros réseau, moi, de par mon parcours chez April et chez Publicis, où très vite, on a pu déjà faire un démarchage commercial. Donc, très vite, on a eu des clients
qui ont émergé et qui ont été intéressés pour faire leur expérience professionnelle à vos côtés.
Exactement. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et on était les premiers à créer des lieux complètement atypiques où, en fait, l'histoire de ma pièce, c'est vraiment l'exclusivité de l'appartement pour une seule entreprise. Donc, l'entreprise, quand elle vient à ma pièce, elle est seule, elle est chez elle et elle s'approprie le lieu à sa convenance en fonction de ses envies, de sa population, si ce sont des femmes en majorité ou en majorité des hommes, si ce sont des clients, si c'est de l'interne, etc. Donc, après, le lieu vit aussi en fonction du client.
Et s'adapte à chaque client.
Exactement, et c'est pour ça qu'aussi on a quasiment 30% de notre clientèle, voire peut-être même un petit peu plus, très fidèles. On a des clients qui sont à nos côtés depuis le démarrage de ma pièce, donc quasiment 7 ans et demi maintenant, et qui, dès qu'ils ont un événement, c'est à ma pièce qu'ils le font parce qu'ils sont chez eux, quoi. Ils se sont complètement appropriés l'espace, et comme maintenant, aujourd'hui, il y a 4 lieux, ils naviguent un peu en fonction des besoins, de la typologie de l'événement, du nombre de participants entre les 4 espaces qu'on a aujourd'hui, quoi.
Magnifique. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux que vous avez, parce que maintenant, voilà, vous avez 4 appartements à proposer dans vos services. À l'intérieur de ces lieux particuliers, comment vous mettez en place finalement l'ambiance comme à la maison et l'accorder aussi aux professionnels? Qu'est-ce qui fait que, justement, on se sente dans un lieu de vie, mais tout en étant sur du professionnel?
Alors, en fait, c'est ce que je disais par rapport à l'intervention de Véronique Vincent, hein, qui est donc architecte d'intérieur. Le cahier des charges, la demande que moi, j'avais faite à Véronique, c'était de dire à Véronique, il faut que l'appartement ait une unité. Donc, il faut qu'on trouve l'idée de cette unité, mais il faut que chaque pièce puisse vivre un petit peu de manière indépendante. Et en fait, l'unité, on l'a trouvée par le choix de la colorimétrie des murs, où il y a une espèce de fil rouge, il y a vraiment un style ma pièce, qui ensuite a été complètement complété par une décoration comme à la maison, avec des canapés, avec des tables qu'on a fait faire sur mesure par un menuisier, parce que du coup, on a dû vraiment réfléchir à la fonctionnalité du mobilier. Et puis ensuite, ce qui, je pense, est encore plus vrai 7 ans après, c'est que chaque objet qui est dans ma pièce, c'est des objets qui ont une histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de la déco pour faire de la déco. On n'a pas mis la lampe truc-muche du designer bidule parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça parle à tout le monde. Non, au contraire, on a mis que des objets, que des choses qui font sens par rapport à nous-mêmes, par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'on véhicule avec cette marque d'authenticité, de simplicité. On a des petites collections de maisons. Finalement, il y a les salariés, ils partent en vacances, ils reviennent, ils ont dit « Oh tiens, j'ai trouvé une petite maison, on va la mettre à la Jacobin. » Donc voilà, donc ça c'est tout. Donc après, pour répondre à votre première question, Mathilde, sur les lieux, donc en effet, il y a 4 lieux. Donc, en fait, dans l'histoire de ma pièce, qui est aussi intéressant que je pense que j'explique, c'est que quand on a ouvert donc ma pièce en 2012, ça s'appelait Ma Pièce.
Et pourquoi Ma Pièce, alors?
L'histoire du nom, elle est très rigolote et elle est aussi très jolie. Elle a beaucoup de sens, comme tout ce que j'essaye de faire depuis 7 ans et demi. En fait, on a cherché le nom, on a fait beaucoup de brainstorming, des apéros en famille, avec des amis. Et impossible de trouver vraiment le nom qui collait vraiment au concept.
Qu'on
avait envie de faire, soit ça faisait trop restaurant, soit ça faisait trop agence de com, ou ça faisait trop hôtel. Et puis ma petite maman me dit, mais pourquoi tu regardes pas un peu du côté de Louis XIV, Place Bellecour, il y a peut-être des choses que tu pourrais récupérer sur l'histoire de la statue, etc., etc. Et puis moi qui suis née à Lyon, à l'Hôtel-Dieu, donc pas très loin de la place Bellecour, je ne connaissais pas la rue Paul-Lintier, puisque l'adresse de ma pièce Bellecour, c'est 4 rue Paul-Lintier. Et je me dis, en effet, je vais regarder du côté de Louis XIV. Et en fait, j'avais rien trouvé. Pareil, c'était pas suffisamment proche des valeurs vraiment de convivialité qu'on voulait donner au nom. Et en fait, j'ai cherché qui était Paul-Lintier. Donc, j'ai découvert que c'était un étudiant qui avait fait ses études à Lyon, qui avait une très bonne plume, donc il avait créé la revue de l'étudiant dans laquelle il était rédacteur en chef. Ensuite, c'est un jeune homme qui s'était engagé à l'armée, qui avait vu, qui a assisté au démarrage de la Première Guerre mondiale et qui avait donc tenu des carnets où il écrivait, bah, tout ce qu'il pouvait voir, ressentir et vivre de cette première guerre. Malheureusement, il est mort sur le champ de bataille et il avait demandé à ce que sa famille puisse récupérer ses carnets. Et donc, ces carnets ont été publiés après sa mort. Et ça s'appelle « Ma pièce ». Et en fait, ce sont des pièces d'artillerie. Et j'ai pu, moi, trouver des livres de l'époque. Donc, si vous allez sur le site internet mapièce.fr, vous verrez, tous les lieux ont un livre qui est sous cloche, qui s'appelle « Ma pièce ». Et quand j'ai vu ça, je me dis « Mais c'est pas possible ». C'est exactement ce dont on a besoin. C'est exactement ça. Je trouvais que c'était beau. Je trouvais que ça racontait une jolie histoire. C'est aussi notre façon à nous de mettre en lumière cet homme.
Et de le prendre comme symbole, finalement, de vos valeurs.
Exactement. Et donc, on a eu aussi dans le site de Bellecour, on a un très bel article d'un journal qui avait été édité en 1916. Qui s'appelle Le Gaulois, où on parle justement de Paul Lintier et de son livre, etc. Donc voilà, donc la petite histoire sur le nom de ma pièce. Et puis ensuite, on a été accompagné par l'agence Dissidentia, qui nous a fait un très très beau logo.
Ce joli M, effectivement, qui met bien en valeur le caractère un petit peu luxueux, si je peux dire ça comme ça, et l'élégance finalement des lieux que vous avez développés.
Voilà, exactement. Donc du coup, on a ce premier lieu qui est donc 4 rue Paul Lintier, qui est Place Bellecour. En 2015, on avait beaucoup de demandes de petits comités qu'on pouvait pas systématiquement prendre à Bellecour parce que la capacité d'accueil de Bellecour était plus importante. Et donc du coup, en termes de modèle économique, c'était pas suffisamment intéressant. Et donc très vite, on a ouvert un deuxième lieu qui est donc Place des Jacobins. Donc c'est là où là j'ai eu une fois de plus, ma casquette de communicante, où je me suis dit, comment je vais appeler ce deuxième lieu? Et en fait, je me suis dit, finalement, ma pièce va devenir une marque. Et on va
préparer. Au début, c'était pas une marque au tout début?
Ouais, non, c'était un lieu qui s'appelait ma pièce. Le deuxième lieu, on s'est dit, on va l'appeler mon appartement, ou je sais pas. Et puis finalement, je me suis dit, non, ça fait sens que cette marque-là, que ce nom, ma pièce, devienne une marque. Donc là, on a travaillé sur une plateforme de marque, où on a interviewé des clients, des prospects. On a fait une belle étude sur cette marque et sur cette plateforme de marque. C'est là où on a écrit notre vision, notre ambition, nos valeurs, etc.
Ah d'accord, puisque vous étiez parti avec la première pièce, finalement, le premier appartement de Bellecour, sans vraiment une ligne directrice de marque, sans un réel branding, si je peux dire ça comme ça.
Exactement, Mathilde, parce que quand on a ouvert en 2012 ma pièce... Place Bellecour, on s'est pas dit, dans 3 ans, on va ouvrir le deuxième. C'est vraiment, et toute l'histoire de ma pièce est construite, et je me dis, avec ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, heureusement, toute l'histoire de ma pièce s'est construite sur, j'ai créé ma pièce par une identification d'un besoin, on a ouvert le deuxième lieu par une identification de besoin, j'ai ouvert le troisième ma pièce par une identification de besoin. En fait, rien n'est fait par opportunisme. Tout est fait par sens et par identification d'un réel besoin client auquel on
marche avec son temps aussi et les nouvelles tendances et ce qu'on vit aussi actuellement.
Voilà, exactement. Donc du coup, ma pièce devient une marque en 2015 et on décide de pluguer à cette marque des noms géographiques. Donc c'est devenu ma pièce Bellecour, ma pièce Jacobin. En 2017, donc j'ai ouvert une maison qui est sur les hauteurs de Lyon, vers Sainte-Foy, la Mulatière, qui s'appelle Ma pièce Montagnière, et le dernier qui est Ma pièce Sénèque et qui est Maréchal Joffre, qui est dans le quartier d'Ainay, qui est un appartement plus grand, plus baroque dans son style un petit peu différent, parce qu'on avait aussi identifié un réel besoin d'avoir beaucoup plus de salles de sous-commission, ce que ne pouvaient pas offrir les 3 autres lieux. Voilà un petit peu l'histoire, comment cette marque a grandi, comment cette marque a grossi, et en fait tout ça s'est fait en fonction vraiment de la demande de nos clients, du besoin, et non pas de notre ambition de se dire « Ah bah tiens, on va en ouvrir 10 d'ici 2020 ». Non, ça n'avait pas de sens. Ce qui faisait sens pour moi, c'est d'abord d'avoir une croissance maîtrisée, et heureusement qu'on l'a, parce qu'avec ce qui se passe là où on a zéro activité, heureusement qu'elle est maîtrisée, et surtout qu'elle réponde à un réel besoin, quoi.
Et est-ce que Vous diriez qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux besoins, alors, au vu des tendances et, bon, bien sûr, entre parenthèses, la crise, hein, est-ce qu'il y aurait des besoins pour la future reprise d'activité, peut-être dans l'événementiel, justement, professionnel, comme ça? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux lieux à créer, finalement?
Alors, moi, j'ai une petite idée, mais du coup, je vais pas trop en parler parce que je vais trop la dévoiler. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à faire, toujours sur cette notion de sens et cette signature que l'on a de maison d'hôte pour entreprise. On pourrait vraiment le déployer, le développer, pas uniquement sur du réceptif d'entreprises qui réaliseraient leurs séminaires, mais en apportant un vrai savoir-faire, un vrai conseil avec de l'expertise, avec de l'accompagnement, où les entreprises pourraient venir chercher autre chose que uniquement un savoir-faire de conception, de réalisation et d'accompagnement, ce qui est déjà pas mal, ce qu'on fait déjà depuis 7 ans et demi. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que ce qu'on vit nous oblige aussi à repositionner un petit peu les choses, à redéfinir un petit peu nos périmètres, à redéfinir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est moins.
Et les segmentations aussi?
Les segmentations, après moi, ça me convainc vraiment de ce que je suis, sur lequel je travaille et je picouse entre guillemets mon équipe, sur cette notion de sens, sur cette notion de lien. Et on le voit bien d'ailleurs dans cette crise du Covid, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'entraide. C'est incroyable ce qui est arrivé à émerger de ce confinement, de cette crise, de cette incertitude. On ne sait pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il y aura des autres, des nouveaux besoins? Oui, très certainement. Est-ce qu'on va se réunir différemment? Oui, très certainement. Pendant combien de temps? Maintenant, est-ce que ça sera tout le temps différent? Est-ce que c'est juste pour un temps donné? Ça, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Parce que...
Est-ce que, justement, vous pensez qu'il va y avoir un impact au vu de la façon de travailler aujourd'hui qui va être certainement plus axée sur du digital, des réunions peut-être à distance? Est-ce que vous voyez une influence possible sur l'activité et puis sur ce qu'on pourra développer justement en événementiel d'entreprise?
Oui, parce que je pense que ce qu'a montré aussi le confinement dans lequel on est aujourd'hui, c'est que le télétravail est possible. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de patrons, il y a beaucoup de managers qui n'en étaient pas convaincus. Il y a beaucoup de salariés aussi qui pensaient ne pas arriver à se concentrer, ne pas arriver à être productif en travaillant de chez eux. Et en fait, ce que nous prouve aussi cette crise, c'est que si c'est possible, et que du coup, cette possibilité d'organiser son travail de manière complètement différente va aussi permettre un petit peu de libérer certaines organisations de carcans qui coûtent cher. L'immobilier coûte cher, hein, donc il y a peut-être des entreprises qui vont dire que finalement, elles pourront peut-être avoir des salariés plus en télétravail, ou en tout cas avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle beaucoup plus juste. On parle beaucoup de souffrance au travail, hein. Tout le monde a lu beaucoup d'articles, a assisté, a entendu beaucoup de conférences sur ces problématiques de bien-être en entreprise. Peut-être que justement, cette crise-là va nous permettre d'affirmer que oui, c'est possible et qu'en plus, on va être peut-être tous plus rentables, entre guillemets, plus productifs sur cette capacité à rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est pour la partie vraiment travailler à la maison et le télétravail. Après, sur la partie digitale, c'est pareil. Je pense qu'il y a plein de... et moi, je le vois avec mes clients, je le vois autour de moi, même avec mon mari, où très facilement, tu prenais un TGV pour une réunion sur Paris. Ou il prenait un TGV pour une réunion sur Lyon. Donc non, je pense qu'il y a aussi des choses qui vont pouvoir se faire plus en visioconférence, avec notamment tous les outils que maintenant on maîtrise mieux après 2 mois de confinement, comme Zoom, etc., comme Microsoft Teams, etc. Donc oui, il y a des réunions qui vont se faire de manière différente, où on aura peut-être moins le réflexe de dire, la filiale qui est à Lille-Bordeaux, tout le monde à Lyon. Non, la filiale de Lille-Bordeaux sera en visio, et par contre ceux de Lyon. Donc oui, ça va changer, et peut-être qu'il y aura plus de réunions avec beaucoup plus de réflexion et de sens que de réunions pour se réunir. Je sais pas si j'arrive à être claire, mais...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Donc... Alors, il faudrait que le prochain Ma Pièce soit un Ma Pièce dans chaque ville pour pouvoir réunir les personnes de chaque ville. Voilà.
C'est parti un petit peu des idées qu'on a sur le développement. Bon, ça, on le fera le jour où on sera sûr que notre économie sera remise sur les rails. À mon avis, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais oui, oui, en effet, ça ferait sens, en tout cas, de pouvoir développer des MAPIES un petit peu dans chaque ville. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses aujourd'hui à réfléchir autour de ce concept de maison d'hôte pour entreprise.
Oui, et puis du coworking peut-être, des espaces d'échange et de mise en lien, parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant en hôtellerie, hein, les lieux de vie, justement, c'est de mettre en place des coworking. Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça, du coworking, le fait que les gens se réunissent sans vraiment se parler dans des endroits comme les pièces d'hôtel non utilisées? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a donné aussi des inspirations pour ma pièce ou pas du tout?
Pas du tout. Non, moi, ce qui m'a donné l'inspiration de ma pièce, c'est que j'ai la chance d'avoir bon, j'habite dans le Vieux-Lyon, et on a une cuisine qui est assez grande. Et en fait, à chaque fois qu'on avait des copains à la maison, on finissait, généralement, la soirée se faisait toujours dans la cuisine, autour de l'îlot central de la cuisine. Et je me disais, mais en fait, c'est ça dont les gens ont besoin, c'est d'être ensemble. C'est d'être dans un lieu où t'es bien, où ce que je disais, t'es bien accueilli, où tu t'ouvres une bonne bouteille, où tu peux parler de plein de choses, t'as une liberté d'expression, et de confidentialité. Et donc, du coup, non, d'abord, les espaces de coworking sont arrivés bien après l'ouverture de ma pièce. Et je pense qu'on y, on vient pas chercher la même chose dans un espace de coworking que dans un espace comme ma pièce.
Bien sûr.
On n'a pas la même attente, on n'a pas le même besoin. Après, peut-être que ma pièce pourrait répondre à rajouter, à pluguer quelques services qui pourraient un petit peu s'apparenter à cette notion de coworking. Mais je pense que la distinction doit vraiment être faite parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes services et on n'en attend pas tout à fait on n'a pas le même besoin, en fait.
Je vois. Et du coup, qu'est-ce que prône finalement les espaces ma pièce, puisque justement vous parlez de convivialité, le fait de se retrouver ensemble, d'arriver à former des grosses équipes, peut-être voilà, dans un îlot central d'une cuisine. Et est-ce que justement les personnes qui viennent faire leur séminaire ont la possibilité, je ne sais pas, de cuisiner en fait tous ensemble au milieu de leur rendez-vous professionnel, ou c'est... Comment ça se déroule une journée en fait dans un espace ma pièce?
En fait, l'espace ma pièce, nous, on a un slogan où on dit qu'à ma pièce tout est possible et c'est absolument vrai. On peut tout faire à ma pièce. On peut faire un atelier de cuisine, on peut faire un atelier de poterie, on peut faire un atelier de yoga, on peut faire une murder party, on peut faire une dégustation de vin, on peut faire un atelier floral, on peut faire, on peut tout imaginer à ma pièce. Puisque les appartements ont vraiment été réfléchis pour ça. C'est pour ça aussi qu'on a vu fleurir beaucoup de lieux d'événements dans des appartements qui étaient des appartements de particuliers et qui n'avaient pas été spécifiquement aménagés ou conçus ou réfléchis pour permettre à l'entreprise de se réunir. Donc en fait, l'entreprise, quand elle arrive à ma pièce, déjà, elle a une posture de curiosité, parce qu'elle demande, elle se demande où elle arrive. Le participant, il arrive dans une cour ou dans une allée, il dit « je suis où, je vais où ?» Et quand il ouvre la porte et qu'il rentre dans cet appartement où la décoration et les lieux ont été réfléchis et pensés de façon à ce que tout le monde s'y retrouve, donc ma pièce n'est pas du tout ostentatoire, n'est pas du tout luxueux, mais c'est chic, c'est élégant, il y a des jolies pièces, il y a des pièces de designer, on a des très beaux fauteuils de Patricia Urquiola, par exemple. On a on a des choses de Sarah Lavoine, enfin bref. Mais on a aussi du Ikea, on a du La Redoute, voilà. Donc en fait, tout le monde peut se retrouver dans ces espaces. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, on voit les participants, ils font des photos, ils s'inspirent. Des fois, on a des messages en disant, vous avez trouvé où votre canapé? Donc c'est hyper rigolo d'avoir aussi, de devenir aussi un lieu inspirant, pour nos clients. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de journée type, je dirais, à ma pièce, sauf si c'est vraiment une journée de séminaire plutôt classique. Ils arrivent, ils ont un café d'accueil. Nos pâtisseries, comme toute notre restauration, ce ne sont que des produits frais, que des produits de saison. Rien n'est industriel à ma pièce, sauf les bonbons, et encore pas tous. Voilà, donc ils arrivent, ils prennent le café. Nous, on a volontairement, on a une vraie démarche écologique. Il n'y a plus aucune capsule à ma pièce. On ne travaille qu'avec du café moulu de chez Moxa, avec les machines d'expresso. où le marc de café est récupéré, on fait des bûchettes avec pour les cheminées. Il y a plus de plastique, on prend que de l'eau en bouteille en verre qui sont recyclées. Enfin voilà, on a une démarche aussi écologique. Donc en fait, les clients, quand ils arrivent à ma pièce, très vite, il y a un truc qui se passe, il y a des bonnes ondes à ma pièce.
Ils sont dans de vraies ambiances finalement de travail qui sont décomplexées.
Exactement. Et en fait, nous, on adore. Hein. Il y en a qui enlèvent leurs chaussures. Il y a une vraie appartenance, il y a une vraie considération. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi notre notoriété. Parce que finalement, on a créé des liens très importants avec nos partenaires.
Une vraie fidélité, comme vous disiez. Voilà, plutôt.
Exactement. On a créé du lien très fort avec nos clients. Il y a plein de clients qui sont devenus des copains. Il y a des clients qui, au bout de la troisième fois, nous font la bise. Voilà, il y a vraiment cette proximité. On est aussi fiable. Les clients, quand ils viennent à ma pièce, ils se posent pas la question d'à quelle heure ils vont manger, est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner, comment ça va
se passer. Ils vous font confiance.
Voilà, on est ultra dispo pour eux. Ils savent qu'ils peuvent nous demander tout et n'importe quoi. On est vraiment sur les codes de la conciergerie de luxe.
D'accord, magnifique. Et finalement, quelle est votre position au sein de ma pièce, puisque vous dites on leur conceptionne finalement des journées un petit peu adaptées, personnalisées. Et vous, dans l'entreprise, quelle est votre place avec vos collègues, puisque j'imagine qu'il y a quand même des certains rôles définis.
Alors moi, je suis vraiment la personne qui fait le lien entre tout ce petit monde, à la fois client, interne, partenaire. Je fais en sorte d'être un petit peu le capitaine du bateau, mais alors j'ai vraiment un management très collaboratif. Je pense qu'on donne le meilleur de soi-même quand on est dans la responsabilisation. Donc mes salariés, mes collaborateurs sont vraiment responsables de ce qu'ils font. Par contre, ils savent que je suis toujours là. Ils savent que s'ils ont le moindre doute, la moindre interrogation, parfois de l'incertitude aussi, hein, ou un espèce de mal-être parce qu'ils se retrouvent dans une situation qui pour eux n'est pas confortable, ils savent que je suis là. Ils peuvent se retourner, je serai toujours à leur côté, je leur donnerai toujours la main pour les accompagner et les faire grandir. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce projet entrepreneurial, c'est ça. C'est d'amener des jeunes hommes, des jeunes femmes, à la fois quand ils sont stagiaires, quand ils sont salariés, sur aussi un épanouissement. Donc, on en revient à ce que je disais au début de notre conversation, sur cet épanouissement professionnel. Donc, en fait, je suis là, je les accompagne, je leur donne des idées, je benchmark beaucoup, je les challenge aussi beaucoup. En disant bah voilà, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça, vous en pensez quoi, pof pof pof, c'est très participatif. Et du coup, il y a une émulation, il y a une pensée tellement positive dans cette boîte que je pense que c'est ce qui en fait aussi sa réussite. Et c'est ce qui fait que les clients, ils adorent venir à ma pièce, c'est parce qu'ils disent ah ouais, non mais vous êtes une super équipe, on se marre entre nous, on est capable d'ouvrir du champagne après une grosse journée, on est capable de pleurer dans les bras les uns des autres si on a un truc qui est trop dur, etc., etc. Donc, c'est ça qui est hyper important. C'est cette notion un peu de famille, cette notion d'entraide, de groupe, de solidarité et d'enrichissement. Voilà, on s'enrichit professionnellement, mais du coup aussi personnellement, tout en faisant très attention de respecter la vie personnelle de chacun. Voilà.
Oui, la place de chacun. Et pour faire... aussi accord avec ce que vous venez de dire, je sais que vous avez un vrai engagement par rapport à la place des femmes justement dans la société d'aujourd'hui, puisque vous êtes aussi animatrice du CIDFF du Rhône, si ça se dit comme ça. Est-ce que vous pouvez justement articuler votre pensée par rapport à la place qu'ont les femmes justement aussi dans votre entreprise, et puis quelles sont les valeurs que vous soutenez avec cette position d'administratif ?
Je suis convaincue que les femmes sont extraordinaires. Et je ne dis pas parce que je suis une femme, mais je pense que les femmes, on a une capacité à faire beaucoup de choses et à mener beaucoup de choses de front avec beaucoup d'humilité. C'est une généralité, hein, mais parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais de manière générale, quand même, je croise beaucoup de femmes autour de moi qui ont beaucoup de courage, qui mènent de front une vie personnelle, une vie familiale, une vie de couple, une vie professionnelle riche, dense. Je pense que les femmes, on a cette capacité aussi à aller de l'avant, à construire et à construire avec les autres. Donc la solidarité féminine, c'est quelque chose qui existe. Moi, j'en suis aussi touchée parce que j'ai eu de la chance aussi d'être dans une famille où ma maman était très émancipée sur sa vie de femme et sur sa vie professionnelle, et que les femmes dans ma famille ont toujours eu leur rôle, leur place avec des forts caractères. Mais au-delà de ça, je le vois moi dans mon entourage. La place de la femme et être entrepreneur femme, c'est pas toujours facile. C'est plus difficile d'être une femme entrepreneur que d'être un homme. Et en même temps, je suis pas féministe dans le sens littéral du terme. Je pense qu'on ne peut arriver à la parité qu'avec les hommes et grâce aux hommes et en travaillant main dans la main aussi avec les hommes. Et je le vois moi par rapport à mon histoire personnelle. Moi, j'aurais rien fait sans la présence de mon mari à mes côtés qui me rassure, qui m'encourage, qui me stabilise et qui m'aide de manière très pragmatique. Mais en même temps, la société fait que quand même, il faut qu'on déploie 3 fois plus d'énergie pour se faire entendre, pour être audible, pour être convaincante, pour engager de la confiance, alors que pour un homme, je pense que c'est un automatisme qui se fait de manière beaucoup plus simple dans la société et dans les organisations. Et on voit hein, le combat de la place de la femme dans notre société. Finalement, il est quand même un peu laborieux. On le voit encore avec les actualités de cet hiver. Bon, ben voilà, il y a plein de choses qui sont encore pas du tout ancrées. La disparité des salaires, c'est une réalité. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de sujets. Et donc, du coup, pour moi, c'est important d'accompagner l'entrepreneuriat. Alors, pas que pour les femmes, hein, parce que moi, j'étais marraine d'un programme de Lyon Startup de l'université avec Lyon Startup où du coup j'ai beaucoup accompagné d'entrepreneurs, d'ailleurs des jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes, et ça, moi l'entrepreneuriat me passionne.
C'est quelque chose qu'on sent en vous entendant, effectivement.
Et du coup, je suis membre élue à la chambre de commerce de la métropole Lyon Rennes. Donc voilà, j'ai aussi moi une réelle envie, une ambition, et pour moi ça fait partie de mes valeurs à moi, mais qui sont très personnelles, d'engagement. Pour ça, je dis que je suis entrepreneur engagé. Je m'engage dans ma ville. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, ma contribution, en aidant des jeunes entrepreneurs, en aidant des femmes, en aidant des réflexions, en aidant ma ville, en portant des projets, en étant voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai donc ce mandat d'administratrice au CIDFF qui me tient à cœur, mais pour aussi d'autres raisons, puisque le CIDFF c'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Où là, on parle plus aussi de violence. On le voit bien sûr et malheureusement dans cette période de confinement où la violence faite aux femmes et aux enfants est dramatique. Donc voilà, donc là, pour l'instant, j'essaye avec le peu de temps que j'ai à m'engager sur d'autres choses que ma propre entreprise, parce que je me nourris aussi des autres. Hein. Je m'enrichis de l'expérience des autres et de leurs valeurs, et de parce que l'être humain est extraordinaire.
Et unique.
Et unique, et j'espère quand j'aurai un petit peu plus de temps, alors peut-être que ça sera dans quelques années, pouvoir vraiment encore plus me libérer du temps pour les autres, quoi. Voilà. Moi, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de contacts, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin j'ai besoin de tout ça pour avoir un équilibre. Et pour moi, les autres sont importants. Sont très importants dans mon histoire et dans mon équilibre personnel.
Et je rebondis par rapport à vos valeurs, justement, à ce que vous nous disiez. Qu'est-ce que représente pour vous l'hospitality, puisque c'est ma question signature sur ce podcast, et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, donc en français, puisque hospitality est un mot anglais, mais qui peut avoir plusieurs sens en français. Quel est le sens que vous lui donnez ?
Pour moi... dans la notion d'hospitality, hospitalité, il y a aussi cette notion un peu du sens premier de ce mot, qui est de l'accueil d'une part, mais cette notion aussi d'abri, cette notion de, comment je pourrais dire, de nid, de protection, d'encadrement. Pour moi, l'hospitality, c'est vraiment quelque chose, vous savez, comme quand on tend ses bras et qu'on prend les gens à soi, et qu'on les met contre soi, qu'on les entoure, qu'on les serre, qu'on leur donne du courage, qu'on leur donne du bonheur, qu'on leur donne de la joie, qu'on leur donne Je crois que la vie, elle est composée de plein de petites choses qui, en fait, mis les unes dans les autres, les mis les unes à côté des autres, donnent du sens et donnent la beauté de l'existence. Et je crois que l'hospitalité, c'est un petit peu tout ça. C'est être capable, à un moment, c'est un peu cette image de bras ouverts où les gens viennent et vous les accueillez et vous donnez tout ce que vous pouvez donner pour que ces gens-là en face de vous, à côté de vous, soient dans l'épanouissement, dans la simplicité des choses. En fait, le bonheur, Voltaire disait ça, hein, que d'être heureux, c'est avoir la santé. Ben, c'est ça, en fait. L'hospitalité, c'est ça. C'est cette notion de bonheur, d'équilibre, de respect, d'authenticité, de... Voilà, c'est un petit peu tout ça pour moi, l'hospitalité. C'est vraiment cette notion de... On a besoin des uns des autres, donc soyons respectueux des uns des autres et du coup de notre planète, de tout ce qui nous entoure, soyons capables de nous remettre en question quand c'est nécessaire et de trouver le bon en chacun de nous et dans les autres, voilà.
Bien sûr. Et justement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose, l'hospitality, que vous arrivez à mettre en place justement au sein de ma pièce et puis dans votre vie personnelle aussi. C'est ce que je ressens, du moins, en vous entendant en parler.
Oui, c'est vraiment ça. Les autres sont très importants dans ma... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai des amitiés depuis très, très longtemps et des nouvelles amitiés. Voilà, je suis entourée de personnes qui... Je suis entourée de belles personnes. Et ça, c'est très important.
Chère Céline, comment vous vous inspirez au quotidien? Quelles sont voilà, vos petites choses que vous faites au quotidien pour prendre des idées, justement, pour votre aspect plus professionnel, que votre, aussi bien que votre aspect personnel? Je ne sais pas, ça peut être des livres, des articles, des plateformes aussi, des personnes qui, voilà, au quotidien, vous donnent des idées.
Alors moi, l'inspiration, elle me vient d'abord de mes filles, de mes enfants. Alors dans mon histoire personnelle, j'ai deux enfants de sang et j'ai deux enfants de cœur. Ils sont tous les quatre très importants dans ma vie. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, il ne reste plus que deux à mes côtés, puisque les deux autres sont partis vivre chacun avec leurs amoureux ou seuls. Mais en fait, je m'inspire beaucoup de mes enfants et de la façon dont elles vivent et comment elles consomment. Voilà, la musique, par exemple, cette période de confinement, j'ai découvert plein d'artistes parce qu'on danse beaucoup dans notre cuisine, qui est vraiment la pièce centrale de la maison. On rit beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment une inspiration, je dirais, de proximité. Et puis après, à titre personnel, une personne qui est très inspirante pour moi et qui est très importante dans ma vie, c'est ma sœur. C'est une femme de goût, très cultivée, très ouverte, très curieuse. Donc, on parlait toutes les deux au début de notre conversation de cette petite idée de curiosité. Je pense que c'est fondamental. Il faut être curieux, curieux de ce qui nous entoure. Il faut être curieux de ces nouvelles technologies. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut être curieux de tout ça parce que finalement, il y a plein de choses très bien dans tout. Toutes les consommations, si elles sont démesurées, deviennent négatives. Mais dès qu'elles sont mesurées, il y a plein de choses positives à sortir. Donc voilà. Donc moi, je suis aussi beaucoup dans la lecture. Je lis beaucoup de romans graphiques, par exemple.
Design, graphisme.
Voilà. J'aime beaucoup la danse contemporaine. J'aime beaucoup aussi le cinéma. Je suis beaucoup sur Instagram. Il y a notamment une influenceuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Jésus Sauvage, qui est une femme. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans tout, à la fois dans sa créativité, dans sa gentillesse, dans sa bienveillance, dans le choix de ses mots. Voilà, je suis beaucoup de comptes sur Instagram qui m'amènent sur des chemins où voilà, il y a différentes personnes autour de moi qui m'inspirent et que je suis. Et puis après, il y a aussi l'amitié. L'amitié est une vraie source d'inspiration. Bien des sûr. Conversations, des échanges, des partages d'idées, des confrontations d'idées aussi.
Qui en font naître de nouvelles aussi.
Exactement. Donc voilà, donc l'inspiration, elle vient aussi d'une simple curiosité. Donc ça peut être aussi de podcasts, ça peut être aussi... Moi, j'écoute beaucoup un essayiste qui est Nicolas Bouzou. Il a créé les rencontres de l'avenir qui ont lieu chaque année sur justement la problématique de l'avenir, à la fois d'un point de vue économique, sociologique, féministe, sur la santé. Donc voilà, moi je suis vraiment dans tous ces courants de réflexion un peu libéraliste, néolibéraliste. Voilà, pour moi c'est des choses qui me parlent, Darwin. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont inspirantes, et j'essaye aussi de beaucoup. Alors ça c'est, je pense, un peu dû à mon âge quand même. Je me rapproche petit à petit, en vieillissant, beaucoup de philosophes. Donc, je suis beaucoup une philosophe que j'aime beaucoup, qui est Cynthia Fleury, que j'ai entendue plusieurs fois en conférence, qui est une femme extraordinaire. Bon, parfois, elle est un petit peu perchée sur son vocabulaire, mais dès que vous arrivez à comprendre ses messages clés, elle est très inspirante. Donc, voilà, il n'y a pas une chose en particulier, mais je dirais c'est un petit peu un mélange. Voilà, un tout, exactement.
Parfait. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, et moins jeunes aussi, qui souhaiteraient entreprendre et puis se lancer éventuellement dans le milieu de l'événementiel et autres, finalement, mais qui restent autour de l'hôtellerie-restauration? Qu'est-ce que vous diriez, que ce soit une femme ou un homme, bien sûr, qui souhaiterait prendre part aussi à la société et entreprendre des projets comme vous l'avez fait plus tôt?
Alors moi, je pense qu'à partir du moment où on a une idée, on a un concept et qu'on a validé l'idée et le concept, il faut y aller. En fait, je pense que…
Comment le valider, selon vous ?
Bah, ça se valide d'abord d'un point de vue financier. Est-ce que de cette idée-là, on peut en découler un business plan, un modèle économique ? Est-ce qu'on peut en vivre, pas en vivre ? Est-ce que… c'est quoi la volonté, c'est quoi la finalité du projet? Mais je crois qu'à partir du moment où on est convaincu, moi j'ai beaucoup de, il y a beaucoup de moments où je suis beaucoup mon intuition. Alors c'est peut-être aussi très féminin. Je suis beaucoup mon intuition dans ce projet entrepreneurial, et je pense que quand on est convaincu et qu'on a trouvé l'associé, le partenaire, ou la structure, ou le mentor qui peut vous emmener sur les voies de l'entrepreneuriat, parce que vous êtes convaincu de ce dont vous avez envie, et c'est dans cette voie-là que vous pouvez vous épanouir. C'est pour ça que je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est prendre beaucoup de risques. Être entrepreneur, c'est, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut être capable de se remettre beaucoup en question. Il faut être capable d'avoir beaucoup d'agilité, de se dire, bah tiens, j'ai pensé à ça, finalement ça marche pas, comment je change mon fusil d'épaule? C'est être capable d'être curieux, de rebondir et d'avoir une ouverture sur les autres. Donc tout le monde ne peut pas être là-dedans, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas grave, mais je pense que si on a l'idée, le concept, l'envie, qu'on a plus ou moins validé dans les grandes lignes le projet et sa faisabilité, il faut y aller, quoi. Et en plus, on a la chance, dans notre pays et dans notre ville, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour les entrepreneurs. À la fois des accompagnements de ressources financières, mais des accompagnements de ressources, de compétences dans différents secteurs. Enfin, il y a la French Tech, il y a énormément, énormément, énormément de dispositifs qui sont très accessibles, avec des personnes qui font un travail formidable à l'intérieur de ces dispositifs. Donc après, il faut oser ouvrir les portes, taper aux portes, se mettre un petit peu en risque. Mais c'est un tel challenge, c'est une telle reconnaissance. Franchement, ça fait du bien à l'âme d'être dans cette démarche-là et d'avoir des petits signaux positifs et qui vous permettent d'avancer. Et comme je dis toujours, c'est chaque pas en avant, chaque jour. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans l'entrepreneuriat.
Magnifique, c'est un beau message en tout cas, et je pense que ça pourra en inspirer plus d'un, puisque justement c'est aussi quelque chose que j'essaye de partager à travers de ces épisodes de podcast, notamment les précédents, dans lesquels on a aussi parlé de justement oser et voilà, aller de l'avant en tant qu'entrepreneur. C'est quelque chose que beaucoup soutiennent, donc j'espère que ça pourra notamment en inspirer d'autres, belle parole.
J'espère en tout cas.
Céline, où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être sur les réseaux sociaux, ou si on souhaite vous contacter tout simplement
Sur Instagram, LinkedIn, Facebook et sur le site mapièce.fr, tout ce qu'il faut pour nous contacter. Alors moi, à titre personnel, j'ai donc un Facebook, un Instagram et aussi un LinkedIn. Donc c'est Céline Paravi-Atlan. Et vous me contactez via ces réseaux-là quand vous voulez. Sur le site internet, on a aussi les mails. Donc c'est céline.paravi-atlan@mapièce.fr. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages, des questions. Je réponds toujours, parce que ça fait partie aussi de mes propres valeurs, de ne jamais laisser les gens sans réponse, surtout s'ils ont eu déjà, ils ont déjà fait la première démarche de vous contacter. Je suis ravie. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des envies de partager des projets, des questions de femmes, d'entrepreneurs, ben, je suis là et avec grand plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas. Et merci pour votre temps que vous nous avez consacré.
Avec grand plaisir.
Vous avez pris pour nous partager cette belle expérience et ces belles valeurs, en tout cas.
Merci beaucoup, Mathilde. Et puis, ben, bonne chance, plein de belles choses. Parce que la vie, même si elle est un petit peu dure en ce moment, elle est quand même très jolie.
Un grand, grand merci pour être parvenu jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles sur iTunes. C'est une mini contribution gratuite de votre part qui permet grand développement au podcast. N'hésitez pas non plus à en parler massivement autour de vous. Pour vous tenir au courant de toute mon actualité, abonnez-vous sur Instagram @esprithospitality. À très bientôt !